Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir ou plutôt rebonsoir, bienvenue dans ce débat. Manuel Valls a fait disparaître la gauche, déclaration de son ancienne ministre Cécile Duflot dans les colonnes de Paris Match cette semaine. Des mots qui en rappellent bien d'autres, comme ce titre du journal Le Point. Deux semaines après les attentats du 13 novembre, c'est officiel, il n'y a plus de gauche en France. Titre d'un article traitant de la manière dont le gouvernement communiquait alors sur l'état d'urgence, claironnant, je cite, le chiffre des perquisitions, des gardes à vue, des armes saisies. Deux mois et demi plus tard, commence le débat sur l'inscription de cet état d'urgence dans la Constitution. Deux mois et demi plus tard, le gouvernement s'interroge à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur la dégressivité des allocations chômage, sur l'opportunité d'aménager les 35 heures. Deux mois et demi plus tard, enfin, Christiane Taubira, icône de la gauche, claque la porte du gouvernement sur un désaccord politique majeur, dit-elle, la déchéance de nationalité. Alors, le gouvernement français est-il encore de gauche? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Alain Bergougnoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste du Parti Socialiste, professeur associé à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs livres, dont Le long remords du pouvoir, qui est paru en 2007 chez Hachette Littérature. Et puis vous êtes aussi le directeur des études politiques auprès du premier secrétaire du Parti Socialiste. Deuxième invité à vos côtés, Julien Bayou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militant associatif, homme politique français, conseiller régional d'Île-de-France et puis porte-parole du parti Europe Écologie Les Verts. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire écouter Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Elle était il y a deux heures l'invitée de RFI et elle revenait sur un débat qui a été lancé il y a quelques jours par le gouvernement.
La dégressivité des allocations chômage, c'est un débat que nous avons dans notre pays depuis de nombreuses années. Nous avons mis en place entre 92 et 2001. Ça n'a pas eu un effet escompté sur le retour à l'emploi. Aujourd'hui, les partenaires sociaux doivent négocier une nouvelle convention d'assurance chômage. Dans ce cadre-là, ce qu'elle vise, c'est permettre un revenu décent pour ceux qui sont indemnisés et en même temps faciliter et accélérer le retour à l'emploi. Il y a de nombreuses pistes de travail. Celle-ci en fait partie, mais elle doit être étudiée pas plus que les autres.
Julien Bayou, quand vous entendez la ministre du Travail qui ouvre la question de la dégressivité des allocations chômage, est-ce que vous vous demandez si le gouvernement est encore de gauche ou est-ce que vous avez déjà une réponse à cette question ?
Mais en fait, là, vraiment, je comprends pas vraiment parce que elle explique que ça a pas marché et que donc on va à nouveau l'envisager. Donc ça avait lieu entre 92 et 99 et on y a mis fin parce que ça n'a rien. Elle le dit elle-même, ça n'a pas été utile pour le retour à l'emploi et pour cause. La dernière grande politique qui a fonctionné en matière d'emploi, c'est la réduction du temps de travail, c'est le passage de 35 heures. Et là, puisque ça n'a pas marché, en gros, c'est un peu les Shadok, on va peut-être le refaire. Donc là, les bras m'en tombent.
Au-delà de l'efficacité de cette mesure, ce que ça signifie politiquement pour vous ?
Je pense que c'est ça, c'est une perte de sens complète. C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt d'une politique de l'emploi ou des ACEDIC ? C'est de permettre à des gens de pouvoir garder la tête hors de l'eau dans l'attente de retrouver un emploi. Moi, je suis fier qu'on ait un système de protection sociale qui fasse que telle personne, tel vieux, tel jeune, puisse continuer de vivre décemment dans l'attente du retour à un emploi. Et je pense que le rôle des politiques, et j'ai envie de dire de gauche comme de droite, c'est de tourner le dos aux vieilles recettes, celles qui n'ont pas fonctionné, et puis d'inventer la suite. Donc, la transition écolo, ça peut créer des emplois. Je pense notamment à la rénovation thermique. C'est ce que promettait Hollande année après année qu'il n'a pas mis en place. La création de carnet de commandes. En gros, quand vous discutez avec les entrepreneurs, ils vous disent pas je veux les gens qui travaillent gratos. Ils vous disent j'ai pas de commandes. Donc il faut la susciter, il faut la créer. Et puis il faut envisager l'avenir. Encore une fois, c'est la réduction du temps de travail qui a créé le plus d'emplois depuis 30 ans, et ça c'est indubitable. Et on peut aussi, je sais qu'à gauche comme à droite, on réfléchit à des questions de revenus universels. Le gouvernement s'oppose même à l'étude de faisabilité sur ce sujet. Donc je pense que là, il y a une perte de sens.
Alors cette perte de sens, je vous repose ma question, je suis désolée parce que vous tournez autour, mais est-ce que cette perte de sens, elle va pour vous dans le sens d'un gouvernement qui a opéré un virage politique, oui ou non ?
C'est même un tête-à-queue, ouais. C'est même pas de gauche, ou c'est même pas de droite, c'est pas utile. La ministre vient de dire que c'était pas efficace, et on va quand même... Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut un peu s'arrêter sur la bêtise, la médiocrité médiocrité ambiante quand on dit ça n'a pas marché, donc on va le refaire. Donc c'est quoi l'intérêt de baisser les ACEDIC? C'est l'intérêt pour qui? C'est pas pour les chômeurs, ça ne fonctionne pas pour créer de l'emploi, donc c'est l'intérêt pour qui? Donc Alain, ça, c'est pas de gauche, évidemment.
Alain Bergougnoux, c'est pas de gauche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce gouvernement? On a eu des déclarations qui étaient très claires là-dessus. J'en ai cité Cécile Duflot encore aujourd'hui. Oui. Gouvernement de gauche ou pas?
D'abord, une réflexion générale, puis après, venons aux points concrets qui ont été évoqués par Julien Bayou. La réflexion générale, on demandait à un ministre travailliste dans l'entre-deux-guerres qu'est-ce que c'est que le travaillisme? Il répondait, c'est ce que fait le parti travailliste. C'est un peu court, mais il y a une part de vérité. C'est-à-dire, ce gouvernement a été élu par la gauche. Il y a une majorité de gauche. Alors après, on peut discuter qu'est-ce qu'il fait. Mais on ne peut pas distribuer les étiquettes comme ça, les uns seraient de gauche, pas de gauche. C'est un gouvernement qui a été élu par une majorité de gauche. Donc, alors maintenant, venons au concret. C'est-à-dire que, et être de gauche, c'est quoi aujourd'hui? C'est aussi chercher et se poser toutes les questions par rapport à l'emploi. C'est essayer de trouver des réponses. Alors moi, je serais d'accord sur un point avec Julien Bayou. C'est-à-dire que je ne pense pas personnellement que la solution de la dégressivité, quand on est dans une situation où il y a peu d'emplois, soit efficace. Alors, et ça, c'est évident. Mais non, pas point. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la politique du gouvernement. Il y a eu les emplois d'avenir, il y a la politique de la formation. Contrairement à ce qui a été dit, il y a une politique par rapport au logement, par rapport à l'équipement des logements pour donc dans la loi Ségolène Royal. Et quoi, ce qui me frappe...
Donc, il y a des marqueurs de gauche.
Oui, il y a, non, oui, il y a des marqueurs de gauche. Et ce qui me frappe dans le point de vue qui vient d'être exposé, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière fois, c'est le manque de vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des points qui vont, des points qui ne vont pas, mais c'est un ensemble. On ne peut pas tout résumer la politique qui est menée depuis 2012 à un seul fait. Il y a une politique d'ensemble. Et je dirais d'un mot pour terminer, laisser la parole à mon partenaire de dialogue, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi regarder un petit peu en dehors de la France. C'est-à-dire que tous les gouvernements de gauche dans toute l'Europe aujourd'hui, et quel qu'il soit, et on a vu en Grèce ce que pouvait faire Syriza de ce point de vue, quand il est vraiment au pouvoir, parce qu'il y a une différence entre parler
oui, le
pouvoir
programme, la
et
manière
être
de faire
au pouvoir,
campagne et la manière
ils ont tous
pouvoir.
Le même problème face au bouleversement considérable, c'est d'essayer de maintenir un équilibre social et avec une efficacité économique. Alors ça, on peut critiquer, et d'ailleurs moi-même, sur un certain nombre de mesures, je ne suis pas convaincu, mais moi je vois l'ensemble et je vois l'effort, et ça, c'est l'état de la gauche aujourd'hui, et la critique de cette gauche de gouvernement n'a rien prouvé.
Alors, si j'ai bien compris, Monsieur Bergougnoux disait donc en fait, c'est un gouvernement de gauche puisque il est au pouvoir et effectivement il a cette étiquette de gauche, mais c'est aussi une mutation de la gauche. Alors est-ce que là-dessus vous positionnez, c'est une autre gauche qui est au pouvoir, c'est pas celle que vous voudriez voir au pouvoir.
Excusez-moi, mais j'en ai vraiment rien à cirer. C'est que c'est une des mesures qui produisent aucun effet, qui
non mais au-delà, enfonce... au-delà mais non, mais de, pas de ça, la dégressivité,
mais
parce
vous
qu'il
refusez
en a d'autres,
de voir l'ensemble. Moi, je refuse de discuter d'une politique d'ensemble.
Parlons au contraire.
C'est trop facile.
Mais
c'est
non,
trop facile.
J'ai parlé au contraire. Nous sommes partis du gouvernement parce que la politique dans son ensemble était mauvaise. Elle ne fonctionnait pas. Par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi, ça n'a pas produit d'effet.
Il y a eu des premiers résultats et ça se construit sur le moyen terme.
On a encore 600 licenciements. On ne peut pas avoir une parole magique, monsieur.
Il y a un état des entreprises. Il y a un état des entreprises. Et quand il y a une désindustrialisation comme elle frappe la France, soit on ne fait rien, soit on parle, soit on agit.
Parlons-en.
Alors, qu'est-ce que vous avez quitté le gouvernement?
C'est trop simple. J'aimerais répondre sur le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui coûte plusieurs dizaines de milliards par an. On donne donc 16 millions d'euros à Sanofi, qui fait des bénéfices et qui va supprimer 600 postes en 3 ans. Si vous dites désindustrialisation, attaquons-nous-y. Et donc, c'était par exemple certains plans filières de Montebourg qui étaient intéressants, qui ont été remisés. Moi, je dis, la filière automobile est en danger, on veut la soutenir, eh bien, il faut l'aider à vendre et à adapter son offre, à sortir du diesel et à proposer des prototypes qui baissent sous les 2 litres 100. Ça, c'est une politique industrielle. Ce que fait le gouvernement, c'est peu ou prou ce qui se fait depuis 20 ans, c'est-à-dire on saupoudre et ça n'a aucune efficacité.
Bah là, je me porte en faux sur l'exemple concret que vous venez de dire. Parce
Sanofi
que ce café, je ne parle pas de Sanofi, parle d'abord de ce que vous avez dit sur le. J'essaye de suivre ce que vous dites exactement. Et donc, il y avait un certain nombre de plans filières qu'avait mis en place Arnaud Montebourg lorsqu'il était au gouvernement. Et ce qui a été fait par Emmanuel Macron, il y en avait une quarantaine, c'était trop. Il les a réduits. Et par rapport, vous prenez l'exemple de l'automobile, l'État s'est porté à l'aide des grandes entreprises automobiles françaises, Renault, Peugeot. Et c'était l'emploi qui était en cause et l'innovation. Et Renault est une des principales entreprises aujourd'hui sur la voiture électrique.
Mais vous voyez le manque de vision. Vous voyez le manque de vision de les aider telles quelles alors qu'il s'agit d'orienter.
Mais
non,
il y a eu une orientation aussi.
Alors attendez, s'il vous plaît, messieurs, Alain Bergougnoux, s'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une continuité entre les politiques qui ont été menées par Montebourg au début, Arnaud Montebourg, au début du quinquennat de François Hollande et aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ou est-ce que vous concédez qu'il y a quand même un tournant dans la manière de...
Mais il ne faut pas abuser de l'expression tournant, parce qu'on pourrait y revenir plus longuement, mais on n'a pas le temps. Le tournant, il date depuis longtemps que ça, il date des années 80 dans la gauche française, et Cécile Duflot le savait parfaitement lorsqu'elle est entrée au gouvernement en 2012. Donc il y a une continuité, oui, entre Montebourg et Macron. Il a réduit le nombre de plans industriels, mais il y a exactement la même politique. Il y a une différence, et évidemment, ce qui avait été spectaculaire avec Arnaud Montebourg, c'était l'idée d'une nationalisation temporaire, comme il avait pu être cas. Là, ce n'est plus suivi, et essentiellement faute de moyens budgétaires. Et on est dans un État qu'il faut bien voir, qui est de paupérisation financière de l'État, et ça ne date pas d'ailleurs de 2012, de
Alors,
ce point de vue-là. Et si on
ne
tient pas compte de ça, évidemment, on discute un peu de choses qui n'ont pas suffisamment de réalité.
Alors, l'heure tourne. Je voudrais qu'on avance un petit peu dans le débat. Julien Bayou, je voudrais qu'on en vienne un peu à ce tournant sécuritaire, comme on l'a appelé, commenté après la première vague d'attentats, puis la seconde, janvier et novembre 2015. Comment est-ce que la gauche doit traiter de ce problème sécuritaire pour rester de gauche? Comment vous positionnez par rapport aux choix qui sont faits en ce moment, la constitutionnalisation de l'état d'urgence?
Moi, je suis scandalisé par la diversion absolue que constitue la révision constitutionnelle. C'est une manœuvre politicienne et on n'a pas le droit de jouer comme ça à l'apprenti sorcier avec une constitution qui doit survivre au contexte. Donc quand on dit il y a des attentats, je pense qu'on doit s'interroger sur les moyens humains, sur plus de moyens humains de renseignements ciblés, autorisés par un juge, sur notamment ces loups solitaires qui peuvent revenir ou même être organisés depuis la Syrie, depuis la Belgique. Ça implique de se poser des questions. Qu'est-ce qui a failli? Je pense par exemple qu'on a besoin de coopération européenne. On a aussi besoin de
Donc,
confronter...
Donc parler sécurité, ce n'est pas être de droite. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls quand il dit...
Mais attendez, j'y viens. Parler de sécurité, c'est aussi confronter l'Arabie Saoudite en disant que voilà, on ne peut pas avoir pour partenaire commercial une monarchie qui décapite à tour de bras, qui promeut le wahhabisme et qui a financé des groupes qui sont devenus maintenant hors de contrôle.
Donc vous dites cohérence.
Mais qu'est-ce que fait le gouvernement ? Le gouvernement, il prône la déchéance de nationalité, une mesure stigmatisante pour tout un tas de binationaux, une mesure qui pourrait être dévoyée, transformée...
Le mot binationaux a disparu de la deuxième mouture.
Mais non, soyons honnêtes, soyons clairs. On va pouvoir créer des apatrides? Non. Donc on va déchoir de la nationalité des binationaux. Le Front National a d'ores et déjà indiqué que une fois que ce principe sera acté dans la Constitution, il faudra l'étendre. Et donc, alors qu'on a un sujet sérieux, le terrorisme et la réponse de la société, le temps long, l'éducation, l'égalité, les territoires, les moyens, eh bien on fait une diversion tacticienne.
Alors,
et ça,
Alain Bergougnoux, sur cet aspect sécuritaire,
oui,
comment est-ce qu'on est de gauche en faisant de la sécurité aujourd'hui?
D'abord, je m'élève contre cette expression employée à l'instant de diversion. Je crois qu'il faut quand même bien voir la situation telle qu'elle était en novembre, notamment après les attentats de novembre, parce que tout ça c'est décidé en 48 heures. C'est qu'il y avait quand même un souci, qui était le souci du président de la République et du gouvernement, c'était comment allait réagir la société française parce que les attentats de novembre étaient des attentats de masse. Donc il y a eu une crainte et on peut le comprendre. Et donc c'est pour ça, de ce point de vue, je pense qu'il faut toujours expliquer avant d'agir. Il y a une crainte qui est une dissociation de la société et qui est des réactions violentes. Donc le président a essayé de rassembler la représentation parlementaire, toute la représentation parlementaire, pour montrer l'unité de la nation. Donc il faut quand même avoir ça présent à l'esprit. On est dans une situation très grave de ce point de vue. Alors après...
Oui, mais le débat sur l'inscription dans la Constitution...
mais si vous me laissez une seconde. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut avoir ça présent à l'esprit, parce qu'encore une fois, on ne peut pas juger simplement sur un point. Moi, je considère, et ça c'est mon point de vue, et donc là, il y aura un point d'accord, dans un désaccord d'ensemble, je crois que c'était... une idée qui peut se défendre de constitutionnaliser l'état d'urgence, parce qu'il vaut mieux avoir des garanties.
Il vaut mieux avoir, mais le débat
parlementaire n'est pas fini. Si vous méprisez le Parlement, vous méprisez tout le monde. C'est votre attitude, ça je comprends bien. Mais moi je pense que le débat parlementaire n'est pas fini. Constitutionnaliser l'état d'urgence en donnant des garanties de durée de contrôle, c'est une bonne chose. La déchéance de la nationalité, moi personnellement, j'étais pour une peine d'indignité nationale, et je l'ai défendu dans mon parti, dans les délibérations collectives. Je pense que là, on voit bien l'intention, qui, à mon avis, qu'il faut comprendre, qui était de rassembler.
La déchéance de nationalité, c'était pas aussi donner des gages quand même à une certaine partie de la classe politique qui n'est pas franchement classée à gauche.
Je ne raisonnerai pas comme vous le dites.
Mais ça en fait quoi contre le terrorisme?
Si vous me permettez de terminer, parce que, alors c'est toujours fantastique, c'est que vous pensez que. Toute l'action d'un gouvernement s'arrête sur une mesure. Alors, pendant que on parle de ça, il y a aussi une politique du renseignement, il y a aussi une politique scolaire, les mesures continuent, c'est un ensemble. Toute la France n'est pas prisonnière du débat sur la déchéance.
Excusez-moi, on parle de la Constitution.
On ne fait pas que ça. Ce que vous dites sur le renseignement, ce que vous dites sur la lutte antiterroriste, elle se fait, et les services travaillent, et ce que vous dites sur la politique éducative, sur la politique culturelle, ça se poursuit. Là, on aurait pu prendre l'exemple de ce que vient de faire Najat Vallaud-Belkacem sur l'enseignement prioritaire. Donc, je crois qu'il faut éviter symboliser sur une seule question l'ensemble d'une politique.
Et c'est Manuel Valls qui le fait, pas être trop idéologique et aussi tenir compte du contexte, si j'ai bien compris. Mais alors justement, Julien Bayou, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, donc comme politique, vous avez des... Non mais on va essayer d'avancer un petit peu sur le sujet, il nous reste une minute. Est-ce que vous, il n'y a pas des sujets sur lesquels vous avez bougé avec la période que vit actuellement la France? Est-ce qu'effectivement un homme politique aujourd'hui à l'épreuve du pouvoir peut changer sur certaines lignes?
Mais moi, ce qui me choque, la question de savoir si ce gouvernement est de gauche ou de droite, en fait, la vérité, c'est que il apporte plus rien au pays. Et donc, il applique des vieilles recettes. Je pense au saupoudrage d'aide, alors qu'on devrait orienter notre économie vers la transition écologique. C'est ça qui peut créer les emplois, répondre aux besoins en matière de qualité de vie, etc. Je parlais d'approfondissement de la coopération européenne en matière de renseignement. Ça, c'est devenu essentiel. On propose un parquet antiterroriste au niveau européen depuis des années. On voit aucune avancée sur la question. Et donc la question, c'est qu'en fait, il faut basculer, il faut changer complètement de modèle, réinventer notre manière de faire, et puis arrêter avec les vieilles recettes. Or là,
donc Europe Écologie Les Verts ne rentrera pas dans le gouvernement puisqu'on annonce un remaniement pour les semaines à venir.
Ce gouvernement, malheureusement, n'a plus le jus. Et la preuve, c'est qu'il en vient à réenvisager des mesures qui n'ont pas fonctionné. C'est vraiment les chalocs.
Alain Bergougnou, sur ce remaniement, en 30 secondes, est-ce que vous pensez que François Hollande aurait intérêt à réouvrir sa majorité qui s'est quand même restreinte avec le départ de Christiane Taubira?
Si j'ose dire, moi, président, j'ouvrirai au plus de sensibilité possible dans la gauche française. Mais, comme vous le savez, je ne suis pas président et je voudrais dire simplement un point, et c'est là qu'on voit bien la profondeur du malentendu ou de la bonne ou mauvaise foi, c'est que, par exemple, sur la coopération européenne, européenne, le ministre Cazeneuve, bien même avant les attentats du 13 novembre, c'est son effort principal. Simplement, on se heurte à la souveraineté des États. Mmh. Et c'est la difficulté de l'Europe, elle est là. Il n'y a pas assez de pouvoir pour l'Europe et trop de pouvoir des États. Et
merci.
Là-dessus, nous serions d'accord.
C'est un autre débat que les compétences de l'Europe et des gouvernements nationaux. Merci beaucoup à nos deux invités, Alain Bergougnou, historien spécialiste du Parti Socialiste, Julien Bayou, porte-parole du Parti Europe Écologie Les Verts. Merci à Florence Ponce et à Valentin Vanner. On se retrouve demain pour un débat sur l'état d'urgence, justement. Bonne soirée.